20h, le journal du classique, avec Laure Maison sur Radio Classique.
Bonsoir à tous. Radio Classique diffusera demain à 21h un concert exceptionnel de l'Orchestre de Paris, capté à huis clos le 18 novembre dernier à la Philharmonie, un concert dirigé par la chef australienne Simone Young. À cette occasion, nous passerons un petit moment ce soir avec Anne-Sophie Brandalise, la directrice de l'Orchestre de Paris, qui nous racontera la vie d'un orchestre confiné mais bien actif. Avant cela, notre petit tour d'horizon de l'actualité musicale. Une nomination tout d'abord, celle du chef et compositeur finlandais Leif Segerstam en tant que chef invité principal de l'Orchestre symphonique de Saint-Pétersbourg. Leif Segerstam, âgé de 76 ans aujourd'hui, reconnaissable avec son allure imposante, sa grande barbe blanche évoquant tant la figure de Brahms que celle de Karl Marx ou même du Père Noël, comme il se décrit lui-même. Il est actuellement chef honoraire de l'Orchestre Philharmonique de Turku. Le Festival d'art lyrique d'Aix-en-Provence vient de dévoiler la programmation de sa prochaine édition, du moins une partie, à savoir ses productions lyriques. Une programmation qui reprend notamment deux opéras répétés à huis clos l'été dernier, Le Coq d'Or de Rimsky-Korsakov, dirigé par Daniele Rustioni et mise en scène par Barikowski, et le dernier ouvrage lyrique de Kaija Saariaho, Innocence, associant la chef finlandaise Susanna Melki et le metteur en scène Simon Stone. Six autres productions seront à l'affiche cet été, Tristan et Isolde de Wagner avec de nouveau Simon Stone à la mise en scène et Simon Rattle à la tête de son Orchestre symphonique de Londres, Les Noces de Figaro de Mozart avec dans la distribution entre autres Julie Fuchs, Léa Desandré et Emilio González Toro sous la direction de Thomas Engelbrock, Falstaff de Verdi avec Christopher Purves et Stéphane Degout, ainsi que de nouveau le duo Daniele Rustioni-Barikowski. Un spectacle autour de Monteverdi par l'ensemble Correspondance, plusieurs créations dont l'Apocalypse arabe du compositeur d'origine israélo-palestinienne Samiroddeh Tamimi, ou bien encore une version de concert dit Due Foscari de Verdi, chantée par Leonucci et Francesco Melli. L'ensemble de la programmation du festival, qui se tiendra du 30 juin au 25 juillet, sera dévoilé au mois de janvier et la billetterie ouvrira au début du mois de février. Un petit coup d'œil sur l'actualité discographique. Parmi les parutions de la journée, le nouvel album de Christian-Pierre Lamarca chez Naïve, un album conceptuel intitulé Cello 360, dans lequel le violoncelliste met en regard la musique du passé et celle d'aujourd'hui, de Marin Marais à l'électro, en passant par Rameau, Grieg, Ligeti, Dutilleux, Esquèche, mais aussi les Beatles. Un programme personnel et fascinant que le violoncelliste a choisi de réaliser en solo ou presque, puisque son violoncelle se multiplie à l'occasion grâce au principe du re-recording.
Thank you.
violoncelle, ou plutôt les violoncelles de Christian-Pierre Lamarca, dans un arrangement de Yesterday des Beatles, un extrait de cet album Cello 360, sorti chez Naïve. Et donc Christian-Pierre Lamarca viendra nous dire quelques mots mardi dans le journal du classique.
L'Or Maison sur Radio Classique.
Notre invitée ce soir, Anne-Sophie Brandalise, directrice de l'Orchestre de Paris. Un orchestre qui a choisi de rester actif durant ce second confinement et qui a ainsi maintenu ses concerts depuis le début du mois de novembre, même si sa programmation a été bousculée et si le public ne peut être présent dans la salle. Des concerts donnés à huis clos donc, captés pour certains par les micros de Radio Classique, comme celui qui s'est tenu le 18 novembre à la Philharmonie, concert dirigé par Simon Young et que nous diffuserons demain à 21h. Continuer à jouer malgré les circonstances et en l'absence d'un public était une évidence et une urgence, comme me l'a confié Anne-Sophie Brandalise.
Alors c'était une évidence et une urgence pour tout le monde, et j'allais dire pour les musiciens au premier chef. Raphaël Pichon de l'ensemble Pygmalion récemment a dit quelque chose qui m'a frappé, qui dit « pire que le virus, il y avait le silence ». Et c'est vrai que le silence de ce premier confinement a été terrible pour les artistes, pour les programmateurs, pour le public. Et donc, quand le gouvernement a annoncé que les artistes pouvaient être au plateau, travailler, répéter, c'était une évidence que les musiciens de l'Orchestre de Paris seraient au plateau tous les jours de la semaine pour faire les concerts qui étaient prévus. C'est une manière de rompre le silence et de passer en mode de captation. C'est aussi une manière de rompre cette distance qui nous a fait beaucoup de mal au printemps.
Mais il y a un autre silence, c'est celui des spectateurs qui ne sont pas présents dans la salle, ce qui fait que les musiciens ne peuvent percevoir cette ferveur qui les porte d'habitude. Comment font-ils pour jouer à huis clos, pour transmettre cette émotion, être dans l'engagement du concert sans public ?
Peut-être deux choses que j'ai partagées avec eux et que j'ai partagées aussi avec les chefs qui viennent diriger sans public. D'abord, il y a une habitude nouvelle du son, de la place à prendre dans cet espace vide. Comment cette énergie du public, pendant le concert, pendant la captation, comment on la retrouve ? Ça a été le plus difficile pour eux. Et au fil des projets, parce que nous aurons quand même, entre juin et décembre, produit plus de 13 concerts captés, diffusés sur les médias comme les vôtres, qui sont, je le souligne, des partenaires extrêmement précieux, parce qu'on a beau avoir cette énergie d'être au plateau, de jouer, sans les producteurs, sans les diffuseurs, nous ne sommes rien. Donc c'est aussi un engagement, j'allais dire, de la profession dans son entièreté. Donc les musiciens au plateau, ils apprennent à composer avec un autre son, avec une autre énergie. On les met en scène, finalement, on profite d'un plateau nu, on agrandit les distances, on place les caméras comme un plateau de cinéma. Et finalement, c'est une énergie de tournage qui se met en place, qui n'est pas évidemment l'énergie du lien direct avec les spectateurs, mais qui est une autre énergie qui, malgré en effet l'absence physique, nous permet d'être présent et de continuer à travailler et d'être en connexion, dans tous les sens du terme, avec notre public. Ensuite, au-delà du concert, on a multiplié les initiatives ou les dispositifs de rencontres ou des formats plus simples que les concerts pour garder des liens avec les spectateurs. Mais c'est vrai que c'est une expérience d'écoute collective qui n'a rien à voir avec une salle pleine, puisque on sait aussi que cette philharmonie, la salle Pierre Boulez, elle a été conçue pour jouer dans une salle pleine. Donc l'acoustique, elle est idéale quand on a 2400 personnes dans la salle. Donc quand la salle est totalement vide de spectateurs, il y a une réverbération, une acoustique, vous l'avez appréhendé, je le sais, en travaillant cette semaine la prise de son, qui est extrêmement compliquée, et les musiciens vivent la même chose. Mais ils s'en sortent bien, je trouve. Woo!
Frühling, l'un des quatre derniers leaders de Richard Strauss, chanté par la soprano Elsa Vandenhever avec l'Orchestre de Paris dirigé par Simone Young. Un extrait de ce concert capté le 18 novembre à la Philharmonie de Paris est diffusé demain à 21h sur Radio Classique. Alors Simone Young remplaçait ce soir-là Klaus Mäkelä, initialement prévu, mais qui n'avait pas pu rejoindre la France. Cette crise aura donc perturbé la programmation de toutes les institutions musicales, contraintes ainsi à se ressaisir, se réadapter, se réinventer, voire s'interroger sur la façon de concevoir le concert dans le futur, comme nous l'explique Anne-Sophie Brandalise.
Si on prend un peu de hauteur et qu'on se dit... Est-ce que notre façon de programmer, notre façon de travailler sera exactement la même qu'avant ? Non, les choses seront forcément différentes. C'est vrai que ça demande une agilité extrême. Ça nous interroge évidemment sur la relation qu'on a avec notre public et finalement ce lien physique classique. Vous venez au concert, le spectateur vient à vous, il repart après, voilà, bon. Je crois que ces captations audiovisuelles, elles ont pour bénéfice... D'abord, de garder une trace de ces moments-là. Elle contribue aussi à enrichir les archives. Il y a une dimension presque patrimoniale de l'orchestre. Pour ne rien vous cacher, sur une saison d'avant, nous faisions maximum 10-12 projets audiovisuels. Aujourd'hui, en 5 mois, nous en réalisons 13. Donc, ça nous renforce dans l'idée qu'on doit avoir cette attention au patrimoine, on doit avoir cette attention à garder trace. La prochaine étape, c'est l'usage qui vont être faits de ces projets. On a beaucoup de demandes de la part de l'Éducation nationale pour travailler des formats qui soient adaptés aux élèves, aux enseignants qui ne peuvent plus venir au concert. Donc, nous avons décidé de réaliser, à partir de l'année prochaine, donc on ne sera plus en confinement, nous le savons tous, nous avons décidé de réaliser, de travailler sur des podcasts avec votre maison, Radio Classique, qui va nous accompagner à partir des archives sonores de l'orchestre pour insérer des commentaires avec des musicologues ou des comédiens avec qui nous avons grande habitude de travail, qui connaissent l'orchestre. Et ces formats de podcasts, nous n'avons jamais imaginé les faire avant. On faisait des captations classiques de concerts pédagogiques. Là, on va faire un outil spécial. Le prototype... sortira dans quelques semaines autour de la Symphonie du Nouveau Monde. Et nous allons travailler pour les prochains mois à réaliser des petits épisodes qui seront donc des outils pédagogiques, mais vraiment issus de ce qui se passe maintenant. Et de la même manière, moi je m'interroge beaucoup sur la nouvelle écoute que produit ces captations radiophoniques ou audiovisuelles. C'est-à-dire que je pense que ça modifie... le rapport au concert ou le rapport à l'écoute de la musique classique. Vous n'écoutez pas de la même manière une symphonie dans votre canapé que dans un format avec les codes du concert, qui sont parfois des codes excluants aussi. Donc je me dis que ce qui se passe maintenant doit aussi nous interroger sur la façon dont on élargit entre guillemets les publics. C'est un peu un mot valise, mais quand on voit les résultats des vues sur nos Facebook Live ou sur Arte Live Web pour le dernier concert, c'est beaucoup plus que les 2 fois 2000 personnes que nous aurions pu accueillir dans la salle. Ces spectateurs-là, qui font l'effort de se connecter, ils vont peut-être à un moment se dire « j'ai écouté, j'ai aimé, c'était facile ». Comment nous, après, on va les accueillir et comment ils vont revenir ou découvrir d'autres codes du concert classique. Donc c'est ça que je trouve extrêmement intéressant et qui, j'espère, va nous amener à penser différemment peut-être l'accueil au concert ou l'écoute du concert.
Et à développer un autre public qui vous aura découvert via ces captations ou ces podcasts. Alors Anne-Sophie Brandalise, c'est Simone Young qui dirige le concert de ce soir, ici à la tête de l'Orchestre de Paris, une nouvelle femme pour diriger l'Orchestre de Paris. Elles sont de plus en plus nombreuses à diriger depuis deux saisons, et même à diriger les concerts d'ouverture de saison. Alors c'est un phénomène assez récent, cette émergence des chefs avec deux F. Comment l'expliquez-vous et qu'est-ce que cela apporte à l'orchestre, cette présence féminine renforcée ?
Ce n'est pas tant l'émergence des chefs qui est récente. Ce qui est récent, le fait qu'on les programme.
Voilà, c'est ça, oui.
Et qu'elles soient visibles. On sait bien qu'aujourd'hui, il y a moins de 6% des femmes qui sont directrices musicales d'un orchestre et que les femmes chefs d'orchestre n'ont pas accès, comme les hommes, aux grandes phalanges nationales ou internationales. Et pourtant, elles existent, elles sont présentes. Donc, avec Laurent Bayl, notamment, qui a initié ce concours dédié aux femmes chefs d'orchestre autour de la maestra, l'idée n'était pas tant de rentrer dans des politiques de quotas ou dans des cadres contraignants, mais plutôt de prendre ce chemin pour que les choses deviennent naturelles. Il y a 2 ans, l'Orchestre de Paris a accueilli entre 0 et 1 femme chef d'orchestre. Aujourd'hui, c'est 5 à 6 femmes. C'est encore trop peu sur la trentaine de programmes que nous programmons. Mais on sait que ce chemin-là, c'est une tendance qui sera irréversible. Au-delà de la programmation visible que vous signalez, qui est la partie, j'allais dire, émergée de l'iceberg, nous sommes, en tant qu'orchestre permanent de la Philharmonie, extrêmement aussi associés à l'Académie des femmes chefs d'orchestre qui suit le concours Maestra. Et donc, nous avons largement ouvert, au cours des prochaines saisons, nos portes pour que les lauréates ou les académiciennes viennent suivre une masterclass avec un grand chef, viennent être l'assistante d'un grand chef pendant une semaine, viennent prendre la baguette sur des concerts pédagogiques. Donc, il faut continuer l'accompagnement, la formation des jeunes femmes, et puis en même temps, rendre visibles celles qui sont présentes, mais qui étaient peu programmées. Alors, qu'est-ce que ça change pour l'orchestre ? Normalement, rien. Je vous disais qu'on avait un dialogue extrêmement nourri avec les musiciens et leurs représentants. Nous abordons régulièrement ces sujets-là avec eux, comme nous abordons la question de la parité. Donc c'est aussi une réflexion qui doit irriguer l'ensemble des dynamiques d'un orchestre international. Donc ça ne change rien quand une femme vient diriger. Elle a l'autorité de la baguette, comme un homme. Beaucoup de femmes sont un peu réticentes à porter cette casquette et à revendiquer d'être l'étendard de cette cause-là. Moi, je les comprends parce que quand on est une femme sur des responsabilités, comme peut l'être une femme chef d'orchestre, elle n'y est pas parce qu'elle est une femme, elle y est parce qu'elle est...
Parce qu'elle a du talent.
Parce qu'elle a du talent et qu'elle mérite... et qu'elle est à la bonne place.
Ouais. Thank you.
Le prélude du tombeau de Couperin de Maurice Ravel par l'Orchestre de Paris sous la direction de Klaus Mäkelä en concert à la Philharmonie de Paris, c'était le 9 juillet dernier. Klaus Mäkelä, futur directeur musical de l'Orchestre de Paris, qui reviendra diriger ses musiciens le 9 décembre dans la 9e symphonie de Mahler, concert qui sera capté par les micros de Radio Classique et diffusé le 20 décembre sur notre antenne. Alors, comment se passe la collaboration entre l'Orchestre de Paris et ce jeune et brillant chef finlandais dont la nomination a suscité l'enthousiasme des musiciens? On écoute Anne-Sophie Brandalise.
Les musiciens ont accueilli avec une extrême chaleur, une extrême confiance cette nomination. Et je crois qu'un orchestre comme l'Orchestre de Paris progresse aussi dans la confiance qu'il a dans la relation avec son directeur musical. J'allais dire, les bonnes bases sont sur l'échiquier. La construction avec Klaus se passe de manière naturelle et progressive. Klaus Mäkelä sera officiellement directeur musical à partir de septembre 2022. D'ici là, sur les deux années qui courent actuellement, il a un statut de conseiller musical. Donc à ce titre-là, il vient presque 6 à 8 semaines par an diriger l'orchestre, accompagner des tournées, quand on reprendra les tournées. Il est aussi très impliqué dans les concours d'orchestre. Ça aussi, ça fait un peu partie de la cuisine d'une maison. Mais quand l'orchestre se renouvelle, et il est aujourd'hui dans une phase de renouvellement, parce que voilà, il y a une génération de très très grands musiciens, de très grands solistes de l'Orchestre de Paris part à la retraite, on a des enjeux de recrutement sur des postes de solistes absolument clés. Et donc Klaus a vraiment fait le choix de donner du temps à l'orchestre pour participer à ce recrutement et construire de manière vraiment naturelle et progressive son arrivée comme directeur musical. Quand Klaus va arriver en septembre 22, il aura déjà fait connaissance avec cette maison, il aura déjà fait connaissance avec les mécanismes de dialogue social, il aura déjà fait connaissance avec le répertoire que l'orchestre développe, et là aussi où il veut l'emmener. Donc je trouve ça très fluide. Et quand les choses sont fluides et sont naturelles et faites en confiance, c'est extrêmement simple et puis c'est extrêmement porteur de construction ambitieuse. Parce que Klaus a beaucoup d'ambition pour l'Orchestre de Paris, d'un point de vue de tournée, de rayonnement international, de discographie, de découverte aussi de nouveaux répertoires. Et donc les choses, je suis absolument certaine, se passeront comme elles doivent se passer dans la suite d'une nomination qui a fait l'unanimité.
En tout cas, la motivation est là des deux côtés, visiblement. Et on se réjouit de retrouver Klaus Mäkelä le 9 décembre, ici à la Philharmonie de Paris, avec de nouveau les micros de Radio Classique. Merci beaucoup Anne-Sophie Brandalise.
Merci à vous et de votre accompagnement précieux dans ces moments difficiles.
Merci infiniment. Quelques notes de Sibelius par l'Orchestre de Paris, dirigé dans cet enregistrement par Paavo Järvi, le troisième mouvement de la sixième symphonie. L'Orchestre de Paris que nous retrouverons donc en concert demain soir à 21h sur Radio Classique, sous la direction de Simone Jung et avec la soprano Elsa Vandenhever, dans les quatre derniers leaders de Richard Strauss et la quatrième symphonie de Brahms. Voilà, c'est la fin de ce journal du classique. Lundi, nous serons en compagnie de Christophe Rousset. Excellente soirée et excellent week-end. Je vous laisse maintenant, comme tous les soirs, avec France.